chers auditeurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Radio Courtoisie. Merci de votre fidélité au Libre Journal des Chevaux Légers. Alors, l'émission de ce soir, c'est la 123e, est consacrée, sans mauvais jeu de mots, à l'intransigeantisme, au catholicisme intransigeant, à l'intégrisme. L'occasion m'en est soufflée par l'annonce faite le 2 février dernier de nouveaux sacres d'évêques au sein de et par la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. J'en parle ce soir avec le chanoine Albert Jacquemin. Le chanoine Jacquemin est président du tribunal pénal canonique national. Il est également maître de conférences en droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Et puis l'émission se poursuivra. Nous entendrons en deuxième partie d'émission Patrick de Gmelin, qui est historien militaire et qui publie chez Desclés de Brouwer « Des oives au service du pape 1861-1871 ». Et puis l'émission s'achèvera avec la publication de la traduction en français de la biographie que consacre Roberto de Mattei à Méry Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui, 1865-1930. Cette biographie avait été publiée en 2024 et donc sa traduction est publiée ces jours-ci chez Contretemps. Sans plus attendre, débutons cette émission avec vous, monsieur le chanoine Albert Jacquemin. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Monsieur le chanoine Albert Jacquemin, vous êtes, je l'ai dit, maître de conférence en droit canonique à la Cato. Vous êtes aussi président du tribunal pénal canonique national. J'ai souhaité vous recevoir car, à cette question des sacres, vous consacrez aux éditions du Cerf, le livre vient de sortir, un ouvrage intitulé « Le choix de la rupture, Monseigneur Lefebvre, Rome, les sacres, 1974-2026 ». Alors j'ai dit que vous étiez canoniste, c'est-à-dire spécialiste et même maître de conférence en droit canonique. Vous êtes également historien de l'Église et donc en préambule de cette entrevue...
Je suis historien du droit.
Historien du droit. Avec une bonne connaissance aussi de l'histoire de l'Église, monsieur le chanoine.
Ça va ensemble.
Ça va ensemble. Je tenais à dire cela en préambule parce qu'évidemment, votre livre n'est pas un livre polémique. C'est un livre de réflexion et c'est même un livre d'analyse juridique, d'analyse canonique. C'est ainsi que vous l'avez écrit.
Oui, d'analyse pas seulement juridique, aussi théologique, ecclésiologique et juridique, oui.
Alors, vous retracez en fait tout le parcours, tout cet itinéraire de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Et en préambule de cette entrevue, je voudrais vous demander si les sacres éventuels qui se tiendraient dans quelques semaines, donc durant cette année 2026, et puis les sacres qui ont eu lieu, c'était en 1988, est-ce que selon vous, dans les deux cas, il s'agit de manquements établis au droit canon ?
Ben ça, c'est incontestable. C'est contraire à la norme canonique, c'est-à-dire qu'il est un délit. L'Église regarde comme un délit, le droit de l'Église regarde comme un délit le fait d'ordonner des évêques sans mandat pontifical. Donc ça, c'est clair, c'est la norme. Maintenant, il ne s'agit pas que d'une norme de droit positif, il s'agit d'une norme qui vient protéger, parce que c'est le but du droit, qui vient protéger des éléments de droit fondamentaux, enfin des éléments théologiques fondamentaux relevant de la constitution divine de l'Église. C'est-à-dire que l'évêque est au cœur de la théologie de l'Église. Et donc s'arroger le pouvoir d'ordonner des évêques sans le mandat pontifical, c'est-à-dire l'accord du pape successeur de Pierre, évidemment, a des conséquences graves dans l'ecclésiologie, en ecclésiologie catholique.
Ce mandat pontifical, donc, c'est bien un acte pris par le successeur de Pierre, par le pape. Il vaut autorisation, il vaut délégation aussi de pouvoir.
Oui, il vaut autorisation pour l'évêque de consacrer évêque dans la communion avec le successeur de Pierre, donc un évêque en communion avec lui, celui qui va être ordonné. C'est-à-dire que le mandat pontifical Et là, je dirais, la constitue la matérialité de l'existence de cette communion existant entre le pape et l'évêque qui va consacrer et l'évêque qui est consacré.
Monsieur Shannon, Albert Jacquemin, en 1988, ce mandat pontifical était inexistant. Et il est à nouveau inexistant en 2026, ou est-ce que les délais permettraient encore de l'attribuer au consécrateur éventuel dans quelques semaines?
Et je ne vois pas qu'il soit accordé d'ici là. Enfin, tout est possible, mais étant donné qu'il n'y a pas d'autorisation du Saint-Siège et que le Saint-Siège a rappelé il y a peu de temps que toute ordination d'un évêque sans le mandat pontifical serait puni, enfin je veux dire qu'à cet acte était attachée la peine très grave de l'excommunication, je ne vois pas que d'ici là, les problèmes ecclésiologiques entre la fraternité Saint-Pédis et le Saint-Siège soient résolus et que le Saint-Père puisse accorder un mandat pontifical autorisant des évêques à recevoir, enfin à consacrer d'autres évêques et des prêtres à recevoir la consécration épiscopale de ces évêques.
La consécration d'évêques, elle présente, si je puis dire, je vais le dire de manière très prosaïque, l'intérêt pour la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, comme pour tout institut de vie consacrée, de procéder à l'ordination sacerdotale, c'est-à-dire vulgairement de faire à nouveau des prêtres. C'est ça l'enjeu de continuité, l'enjeu apostolique, pastoral.
Quelle est la question?
La question, monsieur Shannon, c'est de rappeler quelque chose de très clair, qui est que pour faire des prêtres, il faut des évêques.
Oui, ça c'est incontestable.
Donc le débat, l'enjeu porte sur la possibilité pour la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de continuer de disposer d'évêques qui, à leur tour, puissent consacrer des prêtres, assurant ainsi la pérennité de la fraternité.
Bien sûr. Seulement, ce ne sont pas des évêques pour quel prix. C'est au prix, quand même, de la communion avec le successeur de Pierre, quand on est dans l'Église catholique.
Oui.
Ce n'est pas un droit inaliénable de la fraternité Saint-Pédis que d'avoir nécessairement des évêques. Et ah. Vous. Donc, si le Saint-Siège, si le successeur de Pierre estime ne pas devoir donner le mandat, elle ne peut pas s'en emparer à la hussarde.
Alors, on comprend bien les termes du problème.
On est bien dans quelque chose où ce qui importe pour la fraternité Saint-Pédis, dans l'état actuel des choses, c'est d'assurer tout simplement les moyens de sa pérennisation. Et pas autre chose, d'abord. Sans évêque, pas de prêtre, on est d'accord. Il y a encore deux évêques qui sont là. Il n'y a pas d'urgence absolue. Et encore une fois, ce n'est pas un dû pour une congrégation, en l'occurrence qui n'est pas canoniquement reconnue dans l'Église,
mais ce n'est qu'il pas a un été dû, et qu'il a perdu.
Il l'a perdu en 75. Bon, ce n'est pas un dû absolument que d'avoir des évêques.
Alors, j'ai bien compris, Monsieur Shannon Albert Jacquemin. Je reviens au.
Que d'avoir des évêques, si vous voulez. Des évêques, il y en a 4000 dans le monde. On trouvera toujours. Si la situation canonique de la fraternité était réglée, ils trouveraient tous les évêques, enfin, tous les évêques seraient en mesure de pouvoir donner les ordinations à la fraternité Saint-Pédis, même dans le rite tridentin. Vous voyez, c'est pas le problème. Le problème, c'est que comme il y a un contentieux ecclésiologique entre la fraternité et le Saint-Siège, le Saint-Siège ne donne pas son mandat pour ordonner des évêques dans ces conditions.
Alors,
et la fraternité Saint-Pédis, eh bien, je dirais, passe outre. On demande l'autorisation du pape, mais s'il ne la donne pas, c'est exactement la même chose. Ça, c'est l'esprit de séparation. C'est l'esprit de c'est un esprit schismatique. C'est-à-dire de refus, d'obéissance à l'autorité pontificale. C'est ça le schisme. Le schisme, c'est un refus obstiné d'obéissance au souverain pontife.
Or, ce schisme, il n'a pas encore été prononcé. Il n'a pas été prononcé en 1988, ni à la suite des sacres de 88.
En 88, l'acte de le schisme, c'est pas. Donc, quand vous lisez le motu proprio Ecclesiae Dei de Jean-Paul II, il est très clairement rappelé qu'il s'agit d'un acte schismatique et que les prêtres, les fidèles sont avertis de ne pas adhérer à ce schisme. Donc, il s'agit d'un schisme. Maintenant, le schisme, si vous voulez, est, enfin, l'excommunication due à cet acte de désobéissance qui constitue en l'occurrence un schisme, est attaché automatiquement au fait d'ordonner des évêques sans mandat pontifical. Ça, c'est la peine d'excommunication qui est attachée. Donc, dès lors que Mgr Lefebvre a ordonné 4 évêques, automatiquement, il a contracté, il s'est lui-même mis en situation de recevoir, de contracter la peine d'excommunication attachée à cet acte. Puis, 2 jours après, cette excommunication a été déclarée. Mais elle existait. On déclare ce qui a été, ce qui est advenu dès l'instant de la consécration pontificale sans mandat, enfin de la consécration épiscopale sans mandat pontifical. Vous voyez, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le schisme de 88 existe toujours. Dans la mesure où l'acte... Alors, vous allez me dire, il y a eu la levée des excommunications, certes. Mais la levée des excommunications, c'est la levée d'excommunications qui touchait donc d'une sanction juridique, qui touchait d'une peine juridique, qui touchait des personnes en particulier, donc les évêques dont il était question, qui désormais ne pâtissent plus, grâce à cette levée d'excommunication, des peines qu'ils avaient encourues. Pour autant, ça ne change rien à l'acte qui avait été posé et qui avait valu cette sanction. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus à récipiscence sur ce point. Ils n'ont pas... La communion est restée, la fraternité et l'Église sont restées divisées. La communion n'a pas été, la pleine communion n'a pas été rétablie. Donc, on se trouve toujours dans cet état. On se trouvait jusqu'à aujourd'hui où nous parlons dans cette situation. Le 1er juillet prochain, si d'aventure ont lieu de nouvelles consécrations, elles ne feront que s'ajouter à celles qui ont été faites en 1988 et prolongeront le schisme dans lequel nous sommes entrés, dont nous sommes les témoins depuis 1988.
Et pour autant, Monsieur le Chanoine Albert Jacquemin, vous le montrez bien dans Le choix de la rupture, publié aux éditions du Cerf. Pour comprendre cette histoire, il convient non pas seulement de remonter à 1988, mais même au-delà, parce qu'on voit bien quels sont les enjeux ecclésiologiques et peut-être même les enjeux doctrinaux. D'abord, vous montrez que les sacres de 1988 ne viennent pas de nulle part et qu'ils présentaient même en un sens un caractère de nécessité au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que presque mécaniquement, la fraternité en est venue à... sacré des évêques en 1988 en raison de du rapport qu'elle avait à la tradition avec un grand T. Le nœud du problème, il est là dans le rapport à la tradition. Vous écrivez, Monsieur le Chanoine Jacquemin, je cite, « À l'instar de la sola scriptura luthérienne, il s'agit d'une substitution de la norme. La tradition substantialisée devient le critère ultime de vérité. » Fin de citation. On voit bien qu'on part d'une réflexion qui est d'abord disciplinaire et qui est encore ecclésiastique et on arrive à un débat ou une controverse qui est non seulement ecclésiologique, mais même doctrinale. Il y a eu substitution par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de la tradition avec un grand T au magistère ou tout simplement à la pleine communion avec le successeur de Pierre. Il y a une dérive doctrinale.
Alors, votre question est très multiple. Hein. Alors, je ne sais pas par quel bout commencer. Je répondrai d'abord au sujet du temps long dans lequel s'inscrit cette décision. Effectivement, les sacres de 88 ne sont pas arrivés comme un éclair dans un beau ciel d'été. Hein. C'est évident. Il y a des éléments antérieurs qui ont préparé, on peut dire dans une certaine mesure, que ces sacres de 88 sont une forme d'aboutissement d'un long processus antérieur. Et ce processus antérieur je l'ai daté à peu près, parce qu'il faut toujours trouver des documents qui nous permettent d'établir des points de repère historique. Je ne sais pas quelle était la pensée de Mgr Lefebvre sur ce point antérieurement à cette déclaration, mais là encore, cette déclaration n'est pas arrivée d'une façon spontanée, sans qu'il y ait eu des préalables qui y aient mené. En tout cas, c'est à partir du 21 novembre 1974, dans une déclaration intitulée, rédigée en forme de profession de foi, que Mgr Lefebvre exprime publiquement, officiellement, sa pensée ecclésiologique concernant la situation entre une Rome éternelle et de tous les papes, etc., qui a toujours existé depuis le début jusqu'au Concile, et une Rome néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifesté clairement au Concile Vatican II et dans les réformes qui en sont issues. Donc il y a une sorte une pensée disjonctive, si je puis dire, qui met d'un côté l'Église de toujours et de l'autre côté l'Église officielle, l'Église actuelle ou officielle ou Église conciliaire qui est refusée. Donc, à partir de ça, il faut bien comprendre, parce que selon moi, que cette dichotomie est profondément ancrée dans la pensée de Mgr Lefebvre, et que de cette dichotomie ecclésiale, il ne se départira plus jamais jusqu'à la fin, et que tous les actes qui sont posés dans la suite, c'est-à-dire entre 1974 et 1988, sont à lire, ne peuvent être compris que dans cette lecture, voyez-vous. Donc 88 aboutit, n'est pas le fruit d'une sorte de conversation qui aurait échoué malheureusement entre le Saint-Siège et la fraternité Saint-Pédis, mais bien une sorte de conclusion d'une logique entamée. Alors, faut être très présent, parce que je comprends ce que vous me dites dans votre question. Je ne parle pas d'un déterminisme, parce qu'il y a toujours une liberté qui est laissée. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une sorte de réaction chimique qui, lorsque vous mettez deux éléments en présence, vont créer automatiquement, nécessairement, une autre réaction. Mais les présupposés de la pensée de Mgr Lefebvre, tels qu'il les a explicités dans cette déclaration de 1974, tels qu'on les retrouve tout au long de sa correspondance, et je mets ça dans les annexes du livre entre le cardinal Ratzinger et lui, etc., montrent bien, et des discours qu'il fait, des sermons qu'il prononce en diverses occasions, en 1976 en particulier, aux ordinations de 1976, à la fameuse messe de Lille, etc., eh bien, montre bien que cette forma mentis dichotomique, si je puis dire, hein, qui était la sienne, à laquelle il était très profondément attaché, ne pouvait, je dirais, non pas de façon absolue, mais ne pouvait que logiquement conduire au schisme de 88.
Et pour autant, monsieur le chanoine Albert Jacquemin, il n'y avait pas que monseigneur Lefebvre. D'abord, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis lui a survécu. Et puis, on voit bien qu'en fait, il a incarné, peut-être coagulé, en tout cas symbolisé, et pas fondé seul, une sorte de front du refus contre des évolutions de l'Église, notamment, je pense notamment à la réforme liturgique, qui, en particulier en France, ont parfois été mal comprises ou ont fait l'objet d'une levée de bouclier. Il y a la modification liturgique, il y a les modifications pastorales, le rapport au sacrement.
Oui, d'accord, mais ça, si vous voulez, là, c'est tout. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que chacun avait des raisons, parmi les gens qui suivaient Mgr Lefebvre, chacun avait des raisons de le suivre. Et les raisons des uns n'étaient pas nécessairement les raisons des autres. Lorsque, en 1976, un sondage IFOP est publié dans je ne sais quel journal, je crois que c'est plusieurs journaux qui l'ont publié, qui se sont repassés les uns aux autres. En tout cas, il apparaît qu'une grosse majorité de Français sont plutôt favorables à Mgr Lefebvre. Favorables à Mgr Lefebvre, favorables à la messe en latin, favorables à la pratique traditionnelle de la religion catholique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chacun n'y voit pas la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, beaucoup de gens, la réforme liturgique s'est faite appliquer en France d'une façon parfois brutale, qui a pu être extrêmement déstabilisante pour bon nombre de catholiques, qui, par conséquent, eh bien, se sont arc-boutés sur la manière antérieure de faire. Et lorsque Mgr Lefebvre arrive en disant laissez-nous faire l'expérience de la tradition, laissez-nous, puisque tout est permis, qu'on permette aussi de faire ce qu'on faisait autrefois, ça trouve un écho chez de très nombreux catholiques, mais pas tous. Entre ceux qui regrettent du latin et ceux qui sont attachés à telle ou telle chose, et puis ceux qui, pour des raisons très particulières, suivent Mgr Lefebvre dans toutes les subtilités de son raisonnement et dans une opposition systématique au Concile qui deviendra de plus en plus systématique, tous les gens qui demandent, qui regrettent les réformes ou la manière dont elles se sont produites ne sont pas des gens qui sont opposés au Concile. Donc, si vous voulez, ou même parfois des gens qui, étant attachés au Concile, ne retrouvent pas dans ces réformes ou dans la manière dont elles sont appliquées ce qui se trouve écrit dans le Concile. Donc c'est extrêmement large. Et au lendemain de 76, du sermon de 76, le fameux sermon de Lille, eh bien, il y a toutes sortes de gens qui semblent soutenir Mgr Lefebvre sans qu'on comprenne exactement ce que cela signifie et qui vont se détacher progressivement de lui au fur et à mesure où le bras de fer avec le Saint-Siège deviendra de plus en plus fort, de plus en plus clair, jusqu'à aboutir à la séparation de 1988.
Je reviens, monsieur le chanoine Albert Jacquemin, je reviens à juillet 2026 et j'avance quelques arguments qui sont maniés par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ou par d'autres à l'appui de ces sacres pour lesquels on a bien compris qu'il n'y avait pas de mandat pontifical, du moins pour le moment. D'abord, on avance l'idée qu'il s'agirait là d'ordination sacerdotale, d'une attribution en quelque sorte du pouvoir d'ordre, qu'il s'agirait de conférer un pouvoir d'ordre et non pas de juridiction. Est-ce que cette distinction, quand on parle d'un évêque de l'Église romaine, a du sens?
Non. C'est-à-dire que cette distinction, c'est une distinction théologique, si vous voulez, d'ailleurs assez tardive, en fait, qui vient du Moyen-Âge, de la théologie médiévale, où l'on distingue dans l'évêque, dans le ministère de l'évêque, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. L'ordre, c'est celui d'ordonner des prêtres, de transmettre les sacrements. La juridiction, c'est de pouvoir diriger un troupeau, n'est-ce pas, d'enseigner. d'être à la tête d'un troupeau à qui, aux soins desquels ces gens sont confiés, au nom du Christ. Donc, si vous voulez, tout évêque est appelé à exercer son pouvoir de juridiction. Un évêque qui n'a que le pouvoir d'ordre, ça n'existe pas. Alors, on va prendre, parce que tout évêque est appelé à être pasteur, et constitutif de la charge épiscopale. L'évêque, ce n'est pas d'abord et uniquement un distributeur de sacrements valides. L'évêque, c'est le pasteur, celui qui dirige le troupeau, celui qui sanctifie, celui qui... donc ça, la sanctification, ben, c'est le pouvoir d'ordre, si vous voulez, puis le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de diriger, le pouvoir de gouverner le troupeau. Alors, on ne peut pas, on peut intellectuellement, notionnellement distinguer le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction dans l'évêque, mais dans la pratique, dans la personne de l'évêque, cela n'existe pas. Vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a les évêques auxiliaires. Les évêques auxiliaires n'ont pas de juridiction ordinaire. C'est l'évêque du diocèse, l'évêque diocésain qui a une juridiction ordinaire. Mais un évêque auxiliaire, c'est-à-dire qui est chargé d'aider un évêque dans sa tâche, reçoit des facultés particulières du Saint-Siège, quand c'est nécessaire, ou du moins lorsqu'il agit, c'est-à-dire lorsqu'il pose des actes de juridiction dans l'Église, les fait par la juridiction qu'il reçoit de l'évêque diocésain. Mais il est toujours en attente pour pouvoir agir dans l'Église, pour pouvoir poser des actes de ministère légitimes dans l'Église, il ne peut faire qu'avec une juridiction et pas d'une façon comme le présente la fraternité Saint-Pie-X. Ça, c'est une chose qui n'existe pas. Je dirais que c'est une sorte de fiction théologique qui a été mise en place pour pouvoir justifier qu'on ait effectivement des évêques qui peuvent donner validement les sacrements, mais dans l'Église, être évêque catholique, ce n'est pas seulement donner les sacrements validement, c'est aussi donner, c'est bien sûr donner les sacrements validement, mais c'est les donner dans l'Église, c'est les donner dans la communion de l'Église, et pas simplement... c'est à ce prix, je dirais, qu'on est évêque catholique. Sinon, on est un évêque, sans doute, et qui n'est pas un évêque catholique. Enfin, c'est aussi simple que ça.
Alors, vous savez ce que la fraternité répond à ça? Elle rappelle que le primat de l'Église d'Angleterre, qui est une femme qui donc dirige les Anglicans, elle a été reçue au Vatican comme si elle était un évêque. La fraternité sacerdotale de Saint-Pie-X, elle met en avant une inégalité de traitement, et il y a là peut-être dans l'ordre du gouvernement de l'Église une sorte de piège de la raideur pour Rome, c'est-à-dire que refusant ce mandat pontifical, il s'agit de communication, mais pas seulement, il s'agit aussi de gouvernement de l'Église, refusant de donner ce mandat pontifical qui vise à faire des prêtres, à continuer de faire des prêtres, eh bien, le pape Léon XIV pourrait être présenté comme un homme dur ou un homme raide qui ne porterait pas le même amour à toutes les marges de l'Église.
Alors, je dirais que là, il faut faire des distinctions. C'est quand même... on peut pas mettre tout sur le même plan. Histoire de... l'archevêque, c'est l'archevêque de quoi de
Canterbury.
De Canterbury, voilà. C'est cet archevêque de Canterbury qui a été élu, se trouve être archevêque de Canterbury, et c'est à ce titre que le pape reçoit cette femme qui est archevêque de Canterbury. En la recevant, il ne fait pas l'apologie du sacerdoce féminin, etc. Il reçoit la personne qui a été élue archevêque de Canterbury en essayant de faire ça, je veux dire, dans le cadre écuménique, sans plus, et en insistant sur le fait qu'il faille s'efforcer d'avoir de bonnes relations entre les divers, non pas églises, puisque vous savez que les ordres anglicans sont considérés comme invalides par l'Église catholique, et à plus forte raison, donc, dans ces conditions. Mais là, il s'agit de quelque chose de particulier. Madame Huntel, qui se trouvait archevêque, etc., est l'héritière d'un schisme de 4 siècles dont elle n'est pas l'auteur, à l'origine duquel elle ne se trouve pas, et à l'égard de laquelle, par conséquent, l'Église emploie une certaine attitude qui est celle d'un accueil en vue d'une éventuelle, enfin de cheminer lentement sur un chemin d'unité. Bon.
Dans la lignée de Vatican II.
Dans la lignée de l'Église, parce que vous voulez, le Vatican II fait partie de la tradition de l'Église, et de la pensée de l'Église et de l'enseignement de l'Église. Là, vous retombez dans cette dichotomie, c'est-à-dire Vatican II, ça fait partie de l'enseignement de l'Église, voilà, et c'est authentifié par le magistère de l'Église, donc de la pensée de l'Église. Et donc, en ce qui concerne la fraternité Saint-Pédis, là, on est au début d'un processus de séparation. Alors, dans 4 siècles, peut-être que les choses sont plus faciles. Le successeur de l'abbé Pagliarani, dans 4 siècles, sera certainement reçu très très rapidement par le Saint-Père quand il demandera une audience. Mais pour l'heure, on est dans une situation où les gens sont à l'origine d'une rupture, où on demande à être reçu par le pape, mais en faisant bien valoir que quoi qu'il dise, de toute façon, on continuera à faire ce qu'on a à faire. Ça serait bien qu'il dise oui, mais s'il dit non, c'est exactement la même chose. Tout est prêt, on a arrêté la date, on a arrêté les modalités de la cérémonie, tout est prêt jusqu'aux bouteilles de champagne, la cuvée des sacs, les gadgets, les porte-clés, les casquettes et les t-shirts.
Monsieur Chanoine.
Je regrette. Mais je puis vous dire que Mgr Lefebvre aurait vomi ces choses-là. Et donc, en tout cas, voilà où nous en sommes. Et de ce jour de tristesse absolue, on fait un jour de grande fête familiale où on se retrouve à boire la cuvée du sacre, enfin toutes ces choses-là.
Oui, Monsieur Chalin, la communication de la Fraternité Saint-Pédis montre une certaine inquiétude, surtout, plus qu'une jubilation de mauvais aloi.
Oui, bien sûr.
Avec un souci d'argumenter, et on a compris que vous jugiez beaucoup de ces argumentations assez faibles, mais il y a un souci d'argumenter et une inquiétude plus qu'une joie mauvaise.
En tout cas, pardonnez-moi ce débordement, mais enfin, il était nécessaire de le rappeler, il était nécessaire de le dire. Je trouve que cette communication est tout à fait préjudiciable et ne fait rien, d'ailleurs, pour montrer la grande inquiétude dans laquelle il se trouve. Et donc, ce qui est certain, c'est que dans ces conditions, avec ces présupposés, ben, le pape ne peut pas les recevoir, puisque de toute façon, quoi qu'il en sorte, ils prendront leur décision de le faire quand même. Il s'agit uniquement, me semble-t-il, de vouloir manifester qu'on aura tout tenté pour obtenir un oui du pape, que le pape ne nous aura pas donné. Voyez, c'est une victimisation, voilà, tout simplement, de la situation pour se donner aux cieux des gens qui suivent la fraternité, des fidèles de la fraternité Saint-Pédis, de se donner la légitimité d'agir comme ils le font, en vertu d'un état de nécessité qui dure, etc., etc. Et vous voyez, ça continue encore, on ne veut pas nous entendre. Le Saint-Père ne veut pas nous recevoir, mais mettez-vous, le Saint-Père, il va recevoir des gens qui vont lui dire, de toute façon, nous, on veut faire ça, dites-nous oui, et sinon, de toute façon, on le fait quand même. Bon, ben, non, c'est pas possible, ça. Le Saint-Père aurait reçu, sans aucun doute, me semble-t-il, s'il y avait eu en face de lui une attitude d'humilité. Voilà, on vient demander à être éclairé, on vient demander à l'autorité de l'Église de nous entendre, de nous comprendre, on veut discuter, mais on vient pour vous expliquer que nous avons raison et que vous avez tort et que vous devez vous plier à notre diktat.
Monsieur le chanoine Jacquemin, on comprend très bien votre position, d'autant plus qu'elle est très argumentée. Petite question tout de même sur l'évolution de la liturgie, notamment dans les diocèses de France, où cette liturgie, durant les décennies écoulées, avait particulièrement varié. Est-ce qu'il n'y a pas, non pas une sorte de triomphe posthume de Monseigneur Lefebvre, non pas dans cette seconde vague de sacres, si elle a bel et bien lieu, mais dans l'aspiration d'un nombre croissant de catholiques français, et notamment parmi les plus jeunes, à une forme de restauration liturgique. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de l'accusateur, qu'il a beaucoup été, en particulier dans ses textes, en particulier à partir de 1974, en particulier dans la lettre aux évêques de 1987, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de prophétique là?
Monseigneur Lefebvre a posé de bonnes questions. Il a vu un certain nombre de choses, et notamment en matière liturgique, de dérives en face desquelles il a su réagir, et qui fait qu'un certain nombre de gens d'ailleurs se sont attachés à lui, davantage que pour des raisons d'ordre théologique profond. Il est évident que la liturgie a été très mal menée en France, en tout cas, dans les années post-conciliaires, entre 1970, enfin dans les années 70 et 80. Bon, sans aucun doute. Et que cela a contribué, pour une large part, à faire le succès de Mgr Lefebvre, à attirer des gens vers Mgr Lefebvre et à rejoindre Mgr Lefebvre. Pour autant, le combat de Mgr Lefebvre n'était pas un combat exclusivement liturgique. La liturgie en faisait partie, mais c'était aussi un combat théologique qui pouvait être dissocié de la liturgie, même si...
Bon, notamment contre l'œcuménisme, etc.
Voilà, des liens entre l'un et l'autre, sans doute, mais j'en veux pour preuve que Mgr Lefebvre ayant attaché, me semble-t-il, le combat contre le Concile, enfin l'opposition radicale au Concile, à l'opposition à la messe de Paul VI et à l'attachement à la messe tridentine. Il a donc fait de la messe tridentine une sorte de condition sine qua non d'opposition au Concile de Vatican II. De sorte que des gens qui pouvaient être attachés, avoir un élan, une affection particulière pour la messe tridentine, eh bien, ne pouvaient pas trouver de place dans cette configuration, parce que cela impliquait d'être automatiquement contre le Concile, ce qui n'était pas le cas pour tous, on s'en fout.
Et donc, oui, monsieur
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez ensuite le Saint-Siège, enfin ce qui s'est rédit, c'est-à-dire qui, en face de la messe tridentine, a adopté une position absolue parce qu'elle était regardée comme une opposition au Concile absolue. Et ça, c'est évidemment que l'autorité de l'Église ne pouvait pas l'accepter. Lorsque les choses ont été un peu plus claires, c'est-à-dire en 88 en réalité, déjà 84 avec le premier indulte, eh bien, les sociétés ecclésiadéiques, enfin tout ce que vous, Fraternité Saint-Pierre, enfin etc.
Christ soit souverain prêtre.
Sont des sociétés de prêtres qui, tout en bénéficiant de l'indulte de célébrer selon la liturgie tridentine, n'en sont pas moins en communion avec l'Église et ne se posent pas dans une situation de refus absolu du Concile. Donc Les deux peuvent cohabiter, opposition au Concile et attachement à la messe tridentine, mais ne s'appellent pas nécessairement. Et je crois que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, que des gens soient attachés à la messe tridentine ou à l'ambiance sacrée d'une messe tridentine, etc., doit être distingué de l'approbation d'éventuels sacres célébrés le 1er juillet prochain. C'est pas la même
Ce
chose.
sera la conclusion, monsieur le chanoine Albert Jacquemin. Un grand merci pour cette riche entrevue que vous nous avez donnée à l'occasion de la publication du choix de la rupture, Monseigneur Lefebvre, Rome, les sacres, 1974-2026, livre publié aux éditions du Cerf. Merci, monsieur le chanoine Albert Jacquemin.
Je vous en prie.
Allez, à
bonsoir,
bientôt.
Monsieur.
À bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Retour sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers. Pardon, chers auditeurs, d'avoir un peu coupé l'hymne du Saint-Siège, mais nous avons un programme particulièrement riche ce soir et j'ai la joie d'accueillir Patrick Deguemeline. Bonsoir, Patrick Deguemeline.
Bonsoir, monsieur.
Alors, j'ai déjà eu la joie de vous recevoir sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers. Ce soir, vous présentez Des Zouaves au service du pape 1861-1871. Vous êtes historien militaire, je l'ai dit. Le livre est publié chez Desclés de Brouwer. Il vient de sortir. Les Zouaves au service du pape, ce sont bien sûr les Zouaves pontificaux, car il y a eu des Zouaves pontificaux, ce qui est très amusant, puisqu'en fait, les Zouaves étaient à l'origine une troupe indigène levée en Afrique du Nord, dans l'actuelle Algérie, par la France. Et on a aussi donné des Zouaves au pape. Pourquoi avoir choisi de les appeler des Zouaves et pas des tirailleurs ou des voltigeurs ou des fantassins légers?
Tout simplement parce qu'ils avaient un uniforme de Zouave, un uniforme très caractéristique, avec la petite casquette à bord carré, les culottes bouffantes... Enfin, c'était un uniforme très caractéristique des Zouaves. Alors, je m'y étais intéressé parce que vous savez que nous avons à Paris un Zouave du pont de l'Alma.
Oui.
Et je m'étais toujours demandé qui était ce Zouave. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il n'avait rien à voir avec les Zouaves pontificaux. Et ça a été une des raisons qui a fait, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose sur les Zouaves pontificaux? Car il y avait des livres anciens, mais pas de livres récents. C'est la genèse, si vous voulez, de mon livre, qui commence, donc, si je puis dire, en 1861, et qui va durer très peu de temps, ça va durer 9 ans, jusqu'en 1870.
Mais pourquoi avoir levé une troupe d'infanterie d'élite pour le souverain pontife? Est-ce que les états pontificaux étaient en difficulté, en danger à l'époque?
À l'époque, si vous voulez, l'état pontifical n'intéresse personne, les puissances catholiques européennes s'en désintéressent, et c'est un ancien militaire qui est devenu... camérier secret du pape à l'époque qui s'appelait Pie IX, qui s'appelle Monseigneur Xavier de Mérode, qui a dit « il faut faire quelque chose, il faut que l'armée pontificale soit commandée ». Et il a fait appel à un général français qui s'appelait le général de la Mauricière pour à la fois organiser et puis devenir le chef de ces zouaves. Alors, on a commencé par faire un bataillon. Alors, un bataillon, il y avait des Belges, il y avait des Français, etc. Et alors, il faut remarquer, pour nous qui sommes Français et qui sommes très attachés à notre beau pays, je dis notre parce que je suis breton, donc la Bretagne et la Vendée, qui ont été très marquées par le royalisme, fournissent des contingents importants. Et donc, effectivement, ils abattent, leur chef est un officier qu'on appelle Louis de Bec de Lièvre, qui n'avait pas de bec de lièvre, je précise tout de suite au cas où vous me poseriez la question. Et alors, on lui donne un uniforme, et qui doit être particulier parce que on sait qu'ils vont se battre en Italie, côté de Rome. Et il fait chaud là-bas. Donc il faut un uniforme assez bien adapté. Le pape est très heureux, Monseigneur de Mérode est très content, et on va les appeler zouaves pontificaux avant même que le corps, le régiment, soit officiellement créé. Donc, comme je vous dis, un bataillon, puis ensuite un régiment, et puis ça va devenir par la suite une brigade, puisque lorsque le bataillon est créé, on a environ 500 hommes. 500 hommes, c'est un effectif relativement modeste, mais ça va monter. Ça va monter au fil des années et on va atteindre à peu près 1500 hommes et ça va monter à plus de 3000 hommes, environ 3200 hommes.
Simultanément ?
Non, peu à peu.
Ils ont déjà atteint à l'instant T. Ils ont, dans leur histoire, à un moment, atteint les 3000 hommes simultanément.
À la fin de leur existence, ils ont effectivement 3000, je crois, de mémoire, que c'est à peu près 3200 hommes.
Oui.
À peu près. Hein? Parce que l'armée pontificale, elle, est beaucoup plus importante. Elle va compter 18 000 volontaires, à peu près. Et toujours la même chose, la Bretagne et la Vendée, en France, fournissent, ce sont des pays qui sont très catholiques, la Bretagne et la Vendée, très traditionnels, et ils fournissent des contingents très importants. Alors il y a eu d'abord, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas assez de temps, il y a eu une légion d'Antibes, au bout d'un moment, on a eu des engagés qui venaient, alors on parle presque de légions étrangères, il y a eu plus de 20 nationalités différentes, ce qui est quand même énorme. Les Français et les Belges sont importants, mais il y a tout. Il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a quelques Américains, et c'est sur les officiers qu'il y a quand même le plus de Français, puisque à peu près il y aura 170 officiers, et on compte 111 Français, c'est-à-dire une majorité. Et puisque on parle de Bretagne, ils auront deux aumôniers, un aumônier principal, qui est un Nantais, qui s'appelle Jules Daniel, et il sera assisté, il aura comme adjoint deux Belges. Et voilà, donc, comme je vous l'ai dit, l'effectif des Français vient essentiellement de l'ouest des pays de la Loire, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas être trop nationaliste provincial, ce que j'aurais tendance à être étant breton, mais on a également des contingents qui viennent du sud de la France, de Nîmes, et du Massif central. Alors, il faut aussi parler de la composition de ce corps. Une bonne partie d'origine populaire, c'est vrai chez les Belges, c'est vrai chez les Hollandais, mais par contre, les Français donnent beaucoup de représentants de l'aristocratie.
À tous les grades. À tous les grades, du coup ? Parce que le nombre d'officiers n'était pas infini.
Oui, mais beaucoup d'officiers. Et d'autant plus que deux ducs français qui sont des cousins, qui sont des La Rochefoucauld, et qui avaient beaucoup d'argent, ont équipé eux-mêmes, équipé, c'est-à-dire tout, les uniformes, l'armement, tout, à peu près un millier d'hommes. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Italie est en pleine guerre civile et il y a Garibaldi, les fameuses chemises rouges, bien connues, qui jouent un rôle important. Et Garibaldi est un révolutionnaire, il n'est pas catholique et ceux qui vont être en face vont se réclamer ô combien, dont nos oies pontificaux, de l'Église catholique romaine. Et on peut dire que pour ces oies pontificaux, ils étaient engagés aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Donc ça, c'est très important de le souligner.
Mais sur le plan militaire, ils étaient tous anciens militaires, ils ont été instruits, c'est-à-dire formés par d'anciens militaires, par leurs officiers qui avaient des états de service. Parce que vous dites qu'ils sont politiques, par conséquent, ils n'étaient pas des soutiens de Napoléon III.
Non.
Ils n'avaient pas servi dans les armées de Napoléon III.
Les officiers avaient effectivement servi, mais ils avaient une attitude particulière, d'ailleurs, il y a une chose qui est assez drôle, ça me revient brusquement. Lorsqu'on leur a donné l'uniforme de zouave, qui était similaire de l'armée française, il y a un évêque qui a dit « C'est bien une idée française d'habiller les défenseurs du pape en mahométan, parce qu'ils étaient fictifs, que leur tenue n'étaient pas spécifiquement français.
Oui, ils étaient habillés en maghrébin du nom des Zawa, donc de cette tribu berbère. Alors, ils ont affronté donc les troupes de Garibaldi, qui oui. étaient, elles, laïques, qui visaient à unir, au nom du libéralisme, l'Italie, toute oui. l'Italie, et c'est-à-dire en envahissant le territoire des États pontificaux. Parce que Exactement. Garibaldi destinait les États pontificaux à quoi ? Une pure et simple absorption par l'Italie unitaire ?
Tout à fait. Il supprimait complètement de la carte l'État pontifical. C'est évidemment, pour les catholiques, c'était un petit peu désordre, notamment pour les catholiques italiens. Alors,
et alors, ils se sont affrontés à Castelfidardo, à Mentana.
C'est la grande bataille de Castelfidardo. Donc, il faut parler ici, d'ailleurs, un chef qui est très important pour les Zouaves. Le patron, c'est un Suisse qui s'appelle le colonel Allais. Et parmi les Français, il y a un officier, qui porte un nom très célèbre de la guerre de Vendée, qui est Athanase de Charette de la Contrie, qui devient lieutenant-colonel, mais sous les ordres d'Allais. Et les Garibaldiens avaient envahi l'État pontifical, ils voulaient organiser l'insurrection de Rome, mais pour ça, il faut du soutien du peuple. Et soutien du peuple, ils ne l'ont pas. Donc, les Garibaldiens s'étaient emparés d'un endroit qui s'appelle Monte Rotondo et le corps expéditionnaire français qui vient au secours du pape va débarquer à Civita Vecchia, c'est le 29 octobre. Et alors là, il y a une bataille qui est très importante, qui est la bataille dite de Mentana. C'est donc la contre-offensive pontificale.
On est en quelle année, là, Patrick de Gmelines ?
Là, on est en 1867. Donc, siège sous le Second Empire en France. Donc, les Zouaves et accompagné des soldats pontificaux, vont enfoncer l'armée de Garibaldi. Il faut dire que apparaît à l'époque une arme dont on parlera beaucoup jusqu'à la guerre de 14, qui est le redoutable le modèle chasse-pot, qui permet de tirer, voilà, qui permet de tirer 12 coups à la minute, ce qui à l'époque est beaucoup. Alors, le drapeau des troupes pontificales est porté par un soldat qui a été très connu par la suite, qui s'appelle Georges de Chergé, et ce drapeau, qui prouve bien qu'il est en tête des troupes qui se battent, va être troué par une balle de fusil. C'est Charette qui nous apprend ça. Alors les Zouaves apparaissent comme les vainqueurs de cette bataille.
De Mentana.
Il y a une chose, de Mentana, qui est une chose qui est frappante, c'est qu'il y a un défilé pour célébrer la victoire, et les généraux eux-mêmes se découvrent, ils ne saluent pas, ils enlèvent leur képi au passage des Zouaves, et on crie dans le peuple qui assiste à cette revue, vive Pineuve, vive la France, vive les Zouaves. Donc, les troupes pontificales, parmi les Zouaves, il y a beaucoup de blessés. Sur les presque 180 blessés, il n'y en a pas tout à fait 180, il y en a environ 105, qui est plus de la moitié, qui sont des Zouaves. Et ce sont les blessés, il y en a une vingtaine qui vont également mourir.
Patrick de Gmelin, malgré cette victoire de Mentana, évidemment, l'épopée des Zouaves s'achève par cette défaite, puisque Garibaldi parvient à créer l'Italie unitaire. Il faudra attendre bien des décennies pour que le pape retiré dans Rome puisse avoir à nouveau un territoire, celui de la cité du Vatican, mais qui évidemment est un territoire aujourd'hui minuscule comparé à ce qu'avaient été les états pontificaux qui existaient depuis les Mérovingiens, depuis plus de 1000 ans. En revanche, pour les Zouaves, l'histoire n'est pas tout à fait terminée, parce qu'ils vont se battre pour la France dans la guerre de 70, et notamment à Loigny.
Charette veut se battre pour la France, et il va voir le gouvernement de la Défense nationale, et il propose ses hommes. Donc on va lui donner l'autorisation, on va lui laisser ce qui est pour lui est très important, son uniforme, mais il va changer de nom. Les Zouaves vont changer de nom, ils deviennent les volontaires de l'Ouest. Alors, ces volontaires de l'Ouest vont continuer à se battre. Ils vont notamment se battre le 11 octobre 1870 dans une bataille célèbre qui s'appelle la bataille d'Orléans. On a, et ils vont notamment se battre le 2 décembre 70. Le 2 décembre, c'est un jour important dans l'histoire de France, hein, puisque c'est la bataille d'Austerlitz. Donc c'est un jour important pour tous les Saint-Cyriens. Moi, j'ai un fils Saint-Cyrien. Le 2 décembre, c'est quand même le fameux 2S. Et les Zouaves vont se battre en criant « Vive Pie IX !» Et ils vont essayer de reprendre le village de Loigny, mais ils n'y arriveront pas. Charette est blessé, il est fait partie, mais quelques semaines plus tard, en janvier 71, les Soies vont charger à nouveau, vont reprendre aux Prussiens, tout près de la ville du Mans, un plateau qui s'appelle Auvourg, et les Zouaves impressionnent quand même beaucoup les gens, mais Charette, qui entre-temps est devenu général, ne veut pas, alors que normalement il devrait le faire, que ses hommes participe à la bataille de la Commune. Le gouvernement va réprimer la Commune. Alors, il n'est pas du tout communard, bien entendu, mais il ne veut pas que ces hommes, qui sont français, se battent contre d'autres Français. Donc, ça, c'est aussi le côté noble de l'attitude de tout cela. Et en 71, alors que les volontaires sont en garnison à Rennes, ça aussi, c'est une chose importante, la Légion est consacrée, la Légion des Zouaves, est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Et, mais le 13 août, les bataillons sont dissous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant ?
Alors, il faut malheureusement conclure et reporter, Patrick de Gmelines, les auditeurs à la lecture, évidemment, des Zouaves au service du pape chez les Clés de Brouwer. Oui. Je vous laisse conclure, Patrick de Gmelines.
Bah, écoutez, je crois que c'est une histoire magnifique, assez peu connue. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai travaillé. Et je pense vraiment que ces Zouaves pontificaux qui avaient d'ailleurs créé une revue qu'on appelait l'Avant-Garde, doivent être connus à la fois pour leur sentiment patriotique, ils sont français, pour leur sentiment religieux, ils sont catholiques, et pour leur qualité militaire, ce sont de magnifiques soldats et ils font que nous gardions le souvenir de ces hommes. Et il y a des descendants qui existent maintenant, il y a une association des descendants, et voilà, je voudrais insister sur les qualités de ces hommes qui étaient catholiques, français,
et légitimistes, et bons soldats. Merci
et
beaucoup.
Bien entendu.
Merci Patrick de Gmelines pour la présentation de Des Zouaves au service du pape 1861-1871, à retrouver chez Des Clés de Brouwer. À bientôt Patrick de Gmelines. Alors cette émission se poursuit dans quelques instants puisque nous abordons notre troisième sujet à la faveur de la publication chez Contretemps de la traduction en langue française de la biographie que Roberto de Mattei avait consacré en 2024 au cardinal Méry Delval. Voilà, la traduction publiée en français porte le titre de Méry Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui. Et je me tourne vers vous, Roberto de Mattei, bonsoir.
Bonsoir, monsieur, bonsoir.
Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Mille excuses pour mon retard. C'est une figure importante que vous nous présentez ce soir. Oui. En quelques mots, Roberto de Mattei, qui est Méry Delval ? C'est dans l'épiscopat la principale figure de l'intégrisme, de l'intransigeantisme, peut-être de la contre-révolution, ça c'est plus philosophique, et en tout état de cause de l'antimodernisme, ça c'est théologique.
Mais avant tout, disons que alors qu'il existe une abondante littérature sur 10, aussi par le fait qu'il a été canonisé, bien sûr. Mais Delval est encore, à mon avis, un personnage assez mystérieux dont on savait peu de choses. Et ma biographie a voulu, disons, combler ce vide. Et peut-être que la dimension internationale de sa figure, qu'on instituait paradoxalement une de ses limites, car vous savez, les Espagnols le considéraient comme anglais, car le Méry Delval, il est né à Londres dans l'année 1865. Et les Anglais, au contraire, le considéraient comme espagnol, car sa famille était une famille espagnole. Les Italiens, comme un cardinal étranger, bien qu'il ait passé 40 ans de sa vie à Rome. Et donc, nous sommes face à une personnalité, je dirais, complexe qui, quand même, a joué un rôle de premier plan sous quatre papes, car le cardinal Méry Delval, avant tout, il fut un collaborateur assez jeune de Léon XIII, mais surtout, Il a été secrétaire d'État depuis Saint-Pédis.
Alors, un secrétaire d'État, je vous coupe ici, Roberto De Mattei. Le secrétaire d'État, c'est l'un des deux ou trois collaborateurs les plus proches du souverain pontife.
C'est le premier.
C'était une sorte de ministre des Affaires étrangères, une sorte de premier ministre, un chancelier.
Je dirais premier ministre. Aujourd'hui, par exemple, sous Léon XIV, c'est le cardinal Parolin et le secrétaire d'État. Et quand Pidis a nommé secrétaire d'État Rafael de Medeval, c'est une décision surprenante, car Saint-Pédis a connu Medeval dans le conclave qui a élu pape Saint-Pédis dans l'année 1903. Et alors, Medeval avait seulement 38 ans. Et donc, il a été le plus jeune secrétaire d'État et le premier non-italien. Mais après ça, disons de 1903 à 1914, Medeva a assisté le souverain pontife Saint-Pédis dans toutes les épreuves difficiles de son pontificat, commencé bien sûr par la lutte contre le modernisme. Et donc, il a donné une aide très importante, car Marie Delval parlait couramment les principales langues européennes. Il connaissait les rouages des chancelleries, les modes de vie des grands cours, le langage de la politique. Mais je dirais que ce qu'il avait en commun avec Saint-Pédis, c'était avant tout une vie spirituelle profonde, un esprit surnaturel qui se traduisait par une disposition d'esprit opposée à celle des modernistes.
Et de fait, il a fait témoignage aussi, il a montré beaucoup de force. C'est le cardinal Méry Delval qui est derrière la condamnation de l'abbé Loisy pour modernisme, qui a travaillé sur le dossier menant à la condamnation du Sillon en France. Ils étaient évidemment sur la même ligne, Saint-Pédis et lui. C'était celui qui a permis de défendre cette ligne intransigeante. À ses yeux, le but était d'empêcher la propagation de cette subversion au sein de l'Église. Quel était le mobile, si je puis dire?
Exactement. Il a joué un rôle très important, comme vous avez rappelé, dans la condamnation de Loisy, d'Alfred Loisy, mais aussi de Georges Tyrrell. Comme on le sait, la condamnation du modernisme a trouvé sa synthèse dans l'encyclique Pascendi du 8 septembre 1907. Et le cardinal Méry Delval fut impliqué dans tous les processus de rédaction finale et de traduction de cette encyclique. Il était en premier plan, je dirais, dans la lutte antimoderniste, et il existait avec, disons, la Sapinière, le Sodalitium Pianum, qui était l'association secrète antimoderniste de Monseigneur Benigni. Et il a eu une collaboration, c'est-à-dire, bien sûr, il y avait des différences de stratégie, car Méry Delval occupait une position officielle en tant que secrétaire d'État, alors que le rôle de Monseigneur Benigni et du Sodalitium Pianum était un rôle, je dirais, pas officiel, mais quand même approuvé par Saint-Pédis.
Mais quelle est l'œuvre de du Sodalitium Pianum, l'œuvre de la Sapinière? Comment, concrètement, cette lutte contre le modernisme a été effectuée?
Oui. Monsieur Benigni, qui a fondé le Sodalitium Pianum, a créé un réseau international. Par exemple, en France, il était Il collaborait avec Monseigneur de la Susse, et, mais aussi il collaborait avec l'abbé Maignan, qui était le procureur des frères de Saint-Vincent de Paul. Mais il avait, je dirais, des correspondants dans toute l'Europe. Et pour avoir d'informations et aussi pour publier, pour diffuser des textes, pour exercer, disons, une œuvre d'influence intellectuelle. Et évidemment, il y avait, disons, une haine profonde des modernistes contre ce groupe. Quand il y a eu le procès de béatification avant de Saint-Pie-X, voulu par Pie-XII, il y a eu de certaines personnes, disons, de milieux progressistes, ont opposé l'approbation de Saint-Pie-X à la Sapinière. Et donc Pie-XII a chargé un cardinal de faire une enquête très méticuleuse, et à la fin de cette enquête a été démontré que le rôle du socialisme pléanum approuvé par Saint-Pie-X était... il avait joué un rôle de service, de grand service à l'Église. Et le cardinal Riedelwald était, comment dire, il avait collaboré à toute l'entreprise. C'est ça, oui.
Alors, il y a des sujets, parce que on est, quand on lit votre biographie, on est fasciné en fait par la proximité, et même plus que cela, par le rôle qu'a joué le cardinal Méry Delval dans l'affrontement ou le traitement des plus grandes polémiques qu'a connu l'Église au XXe siècle, du moins avant le Concile, oui. Ou presque, c'est absolument, oui, considérable. C'est vrai. Il y a certains de ces sujets qui touchent particulièrement la France, avec un succès, oui, qui peut être ou non discuté, et j'ai envie de vous poser la question. Il y a la question des, oui, associations cultuelles qu'il a refusées, donc on, oui, est là dans le débat, oui, parlementaire français, oui, des années 1903-1905, oui, il y a ce sujet. Exactement. Et il y a la condamnation de l'Action française. Je reviens à 1903-1905. Le cardinal, oui, Méry Delval, il est à l'origine du refus de la constitution de ces associations culturelles?
Oui, c'est-à-dire, surtout, il était à l'origine du changement de stratégie, c'est-à-dire du Saint-Siège, c'est-à-dire que à l'époque, le ralliement de Léon XIII malheureusement a échoué, avait eu des conséquences dévastatrices, car les événements dramatiques survenus en France qui culminèrent avec l'abolition du Concordat et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État mirent en évidence l'échec de la politique de Léon XIII et donc la divergence avec la nouvelle politique de Pie-X et de son secrétaire d'État. Mais la politique, je dirais, insistante de Pie-X et du cardinal Méry Delval s'est révélée, je dirais, visionnaire dans le sens positif du terme, car en effet, cette politique a contribué à un grand renouveau du catholicisme en France à la veille de la Première Guerre mondiale.
Mais sur un plan politique, il n'est pas revenu à ce à quoi les catholiques français avaient été poussés à renoncer, c'est-à-dire à la restauration de l'aîné des Bourbons, à une restauration monarchique. Donc Léon XIII prononce le ralliement, les catholiques français, souvent royalistes, se rallient à la République, et puis il y a ce revirement dont vous dites qu'il est visionnaire, parce que j'imagine que...
Et qui a été visionnaire a été pas la politique de Léon XIII, bien sûr.
Voilà, c'est ce revirement au tout début du XXe siècle, oui, à l'instigation, oui, de Méry Delval.
Oui, c'est-à-dire pourquoi se révéler visionnaire, car Pie-X a profité de la situation du conflit, c'est-à-dire de la situation de séparation qu'il n'avait pas voulu, bien sûr, mais il a profité de la situation pour nommer au cours de son pontificat 63 évêques en France, mais sans plus avoir besoin de la reconnaissance de l'État. C'est-à-dire que jusqu'à Léon XIII, tous les évêques qui étaient nommés en France avaient besoin d'être reconnus de l'approbation de l'État. Et donc, il était difficile de nommer des évêques intransigeants. Mais ça s'est passé avec Pie X. La loi de séparation, qui était objectivement une loi de persécution du clergé, s'est révélée malheureuse pour la France, car, pour vous donner un exemple, priva la France de l'influence et du prestige dont elle jouissait surtout en Orient. Car en Orient, le gouvernement français, jusqu'à l'époque de la loi de séparation, s'appuyait sur l'œuvre missionnaire de ses prêtres pour étendre son influence politique, son influence culturelle dans le monde. Mais avec la séparation, ça est terminé. Et donc, a été une défaite pour le gouvernement français. Je dirais aussi que ni le président Combes ni ses successeurs ne comprirent l'importance d'avoir leur propre représentation diplomatique au Vatican, car bien sûr a terminé avec la loi de séparation, mais quand a éclaté la guerre mondiale en 1915, et alors que l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne aussi avaient des représentations diplomatiques, comme la France était l'unique État sans une représentation diplomatique à Rome. Et ça, comme conséquence de la loi de séparation. Donc, je dirais que l'attitude forte de Pie X a résisté à cette politique de séparation. Et l'État français n'a pas eu, disons, le courage, je dirais, de poursuivre cette politique, car le gouvernement français ne voulait pas créer des martyrs, non ? Et donc, en effet, la nouvelle situation de conflit, de tension entre la France et le Saint-Siège, dans les premières années du XXe siècle, a été profitable pour l'Église catholique.
Roberto de Mattei, c'est de toute façon une biographie extrêmement riche et cette entrevue malheureusement s'achève bientôt, mais une question tout de même cruciale pour finir, avant évidemment de renvoyer tous les auditeurs vers la lecture de Méry Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui, 1865-1930. La béatification, la cause de béatification de Raphaël Méry Delval, elle n'avance plus, elle est en suspens. Pour quelles raisons ?
Mais alors, Pie XII aurait voulu avant tout béatifier, canoniser Pie X, et il a réussi à faire ça sous son pontificat. Et après ça, il aurait voulu béatifier Méry Delval. Mais malheureusement, Saint Pie X a été canonisé en 1954. La cause de béatification de Méry Delval était en train d'avancer assez rapidement, mais en 1958, Pie XII est mort. Et le successeur a été Jean-Romain III qui a ouvert le Concile Vatican II. Et donc, à ce moment, il y a eu un changement d'atmosphère. Et Méry et tous les progressistes qui avaient cherché inutilement de bloquer, d'arrêter la béatification, la canonisation de Saint Pie X, à ce moment-là, ont cherché et ils cherchent encore d'arrêter la béatification de Méry Delval. car la béatification de Mère Leval serait la béatification d'un cardinal antimoderniste, le étroit collaborateur de Saint-Pie X. Donc, serait la canonisation de la politique de Saint-Pie X. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas, disons, la cause de béatification existe encore, n'a pas été, comment dire, arrêtée définitivement, bien sûr. Mais il est, disons, en panne, je dirais, un temps meilleur. Mais je voudrais souligner que tout récemment, pape Léon XIV a reçu en octobre de l'année dernière toute la famille Mère Leval, les descendants, disons, de la famille, qui sont plus ou moins 200 personnes dans tout le monde. Et à cette occasion, j'ai eu la possibilité de donner, disons, mon livre au pape Léon XIV. Et il a fait un bon discours, soulignant surtout l'aspect spirituel de l'œuvre du cardinal Mère Leval. Mais enfin, nous pouvons espérer que peut-être quelque chose bouge. On va voir.
Pour vous, elle serait méritée, si je puis dire, cette béatification Roberto de Mattei, parce qu'on voit bien le rôle politique, la violence qui est toujours associée à l'exercice de cette fonction, surtout dans des temps aussi troublés qu'étaient ceux-là pour l'Église universelle. Pour autant, Roberto de Mattei, pour autant, Mère Leval était un homme de piété, un homme de bonnes œuvres et un spirituel, à défaut d'être un mystique.
Je voudrais répondre avec le mot de l'abbé Victor Berthaud, qui était un distingué théologien, et qui l'a écrit, l'abbé Berthaud. Nous sommes certains, en tant que théologien particulier, que le cardinal Mère Leval sera béatifié pour avoir héroïquement exercé sa fonction de secrétaire d'État. Et l'abbé Berthaud invoque le témoignage décisif, je dirais, de Pie XII, qui fut un collaborateur direct du cardinal Mère Leval et qui a initié son procès de béatification. Alors, Berthaud dit que le fait que le cardinal Mère Leval ait eu toute la confiance de Pie X, c'est une évidence qu'aucun historien ne pourra jamais obscurcir, c'est-à-dire le fait qu'il était digne de cette confiance de Saint-Pie X et le fait que Pie XII a témoigné ça. Bien, alors c'est quelque chose de très important. Et le cardinal Pacelli, avant d'être pape, après la mort de Mère Leval, a affirmé dans un discours, un discours prononcé devant la tombe de Mère Leval, que les grandes âmes de Pie X et Saint-Pie X, et n'étaient pas encore Saint-Pie X, mais de Pie X et Mère Leval, ces deux grandes âmes se sont retrouvées dans la joie de Dieu, dans la récompense de l'union de leur œuvre, tandis que leurs noms resteront jamais liés dans l'histoire, illuminés par la lumière des vérités et des paix que le pontificat romain, que Rome, le Saint-Siège, a répandu sur le monde dans les premières décennies du XXe siècle. Ça sont les mots prononcés par Pie XII. Et ça, à mon avis, c'est une opinion plus lourde, plus forte que celle d'un historien comme je suis. Mais je suis convaincu personnellement de la sainteté de Mère Leval. Et ça, c'est une des raisons par lesquelles j'ai décidé de dédier à lui, à cette figure encore très peu connue, ma biographie.
Un grand merci, Roberto De Mattei, pour cette entrevue. On comprend bien en vous entendant que c'est un personnage important, une haute figure de l'Église à qui vous avez consacré cette biographie, qui en français porte le titre suivant « Méry Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui ». La traduction est publiée chez Contretemps. Merci beaucoup, Roberto De Mattei.
Merci à vous.
À bientôt,
merci
j'espère.
À vous. Merci.
Et bonsoir.
Merci. Merci. Au revoir.
Chers auditeurs, cette émission s'achève. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup à la technique. Merci beaucoup à mes trois invités, le chanoine Albert Jacquemin, président du Tribunal pénal canonique national et maître de conférence en droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Il nous présentait le choix de la rupture, Monseigneur Lefebvre, Rome, les Sacres, 1974-2026. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci à l'historien militaire Patrick Deugmelin qui a présenté des zouaves au service du pape 1861-1871 chez Desclés de Brouwer. Et puis merci, vous venez de l'entendre, à Roberto De Mattei, professeur des universités, historien de l'Église. Il nous présentait Méry Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons, chers auditeurs, le 16 juillet. D'ici là, pensez à vous acquitter de votre cotisation. D'un rebours, Servalilium.
Vous venez d'entendre le libre journal des Chevaux Légers dirigé par Luc Le Garsmeur. Émission préenregistrée le 11 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 18 juin de 21h30 à 23h et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.